Alors, déjà 2 mois que nous avons poursuivi l'étude du texte de Pierre. Alors, aujourd'hui, c'est encore une grâce que le Seigneur me donne de venir prêcher sa sainte parole. Alors, encore une fois, on veut souhaiter la bienvenue à notre cher frère Normand, hein, qui vient nous visiter pour la première fois. Alors, pour aujourd'hui, les textes qui seront lus et étudiés seront les 1 Pierre 2, versets 11 à 25. Alors, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, je lis. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point l'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Alors, comme à l'habitude, je diviserai... Ouais, vous pouvez vous asseoir. Alors, comme à l'habitude, je vais diviser mon message en 3 points. Hein? On aime ça, des messages en 3 points. Alors, première partie, ce sera une identité sainte pour un témoignage à salut. La deuxième partie sera une conduite droite pour museler l'opposition par motif de conscience envers Dieu. Et mon troisième point, un chemin de souffrance pour suivre le Christ. Alors, allons-y avec le premier point. Une identité saine pour un témoignage à salut. Alors, dans notre passage, il nous parle de notre vie ici-bas. Dans ce monde, dans cette société souvent indifférente ou même qui est hostile à notre foi. Et il nous le dit avec tendresse, mais avec fermeté également. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le mot « bien-aimé » n'est pas seulement là pour meubler la phrase. C'est une forme pastorale utilisée dans plusieurs lettres du Nouveau Testament pour marquer un tournant moral, par une intention guidée vers une édification spirituelle. Par exemple, l'apôtre au début de sa lettre, dans les 12 premiers versets, parla à l'indicatif. Il décrivait ce que nous sommes en Christ, ce que Dieu a fait pour nous, les grâces que nous avons reçues comme peuple élu, sacerdoce royal, nation sainte. Il annonçait avec force et reconnaissance l'identité nouvelle que nous avons en tant que peuple racheté. Mais dès le 13e verset du premier chapitre, jusqu'à notre passage d'aujourd'hui, un changement s'est opéré. Pierre est entré dans le registre de l'impératif. Il passe de l'indication de notre identité, 12 premiers versets, à des privilèges que nous avons en Christ, à l'exhortation, et jusqu'à l'exhortation pour aujourd'hui pastorale d'une sainte conduite. Alors, pour dire autrement, il passe du « voici ce que vous êtes » au « voici comment vous devez vivre ». Et les deux sont intimement liés l'un envers l'autre. Alors, c'est dans une dynamique, dans cette dynamique-là, qu'on retrouve aussi chez Paul, notamment dans Romains 12:1, où après les 11 premiers chapitres d'indicatifs décrivant l'œuvre de Dieu, il écrit « Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » La marche à suivre, ce que le Seigneur s'attend de nous, c'est vraiment là qu'on le voit à partir du 12e chapitre. Alors, autrement dit, la morale chrétienne ne flotte pas dans les airs. Elle est toujours enracinée dans ce que nous sommes en Christ. On est tous d'accord avec ça. Dans l'union que nous avons avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous n'agissons pas pour être aimés de Dieu, mais parce que nous sommes déjà des enfants bien-aimés, rachetés par le sang précieux de notre Seigneur. Nous le faisons pas parce que notre identité renouvelée en Christ a renouvelé également notre volonté. Il a éclairé notre conscience et oriente maintenant notre vie vers la gloire de son nom. Alors, de la même manière, Pierre nous enseigne ici que la grâce reçue appelle à une vie à une hauteur qui en est digne, à une vie sanctifiée, à une vie visible, à une vie engagée dans la lutte contre le péché et dans notre témoignage envers le monde. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous appelle également étrangers et voyageurs. L'expression « étranger voyageur » est empruntée, du moins de cette fois-ci, à l'Ancien Testament. Quand on parle d'Abraham, en Genèse 23:4, il est dit que Abraham était étranger en Canaan. Il dit lui-même « Je suis étranger et habitant parmi vous ». Notre identité première n'est pas d'ici. Alors, nous vivons dans un monde, c'est vrai, dans le monde qui est présent, mais nous n'en sommes pas les citoyens ultimes. Nous usons du monde pour notre subsistance, tout en sachant que notre patrie est céleste et en tant que citoyens du royaume de Dieu, que nous marchons parmi les nations, comme étant en voyage, ne partageant pas ses valeurs ni ses coutumes. Cette identité de pèlerin ne nous pousse pourtant pas au retrait. Pierre n'appelle pas les chrétiens à vivre en marge de la société, mais à une présence éthique et rayonnante dans le monde. Notre étrangeté dans ce monde ne se manifeste pas par notre séparation physique d'avec lui, mais par notre manière de vivre et qui prend sa norme dans la cité céleste et non pas dans celle qui est sur la terre. Et c'est ce que Pierre veut dire lorsqu'il dit « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. » Les convoitises charnelles ne se résument pas simplement à la sphère sexuelle, mais elles désignent aussi l'ensemble des désirs de la chair, les impulsions issues de la nature humaine déchue qu'on porte encore avec nous, qui est dominée par l'égoïsme, l'orgueil, la rébellion et l'amour désordonné de soi, du monde et des plaisirs passagers, étrangers à la vie de Dieu. Il s'agit de tout ce qui s'oppose à la loi morale de Dieu, à son dessein de sainteté, à la transformation progressive de l'âme à l'image de Christ. John Owen a dit « Celui qui ne s'emploie pas chaque jour à tuer le péché, verra le péché s'employer chaque jour à le tuer. » ça illustre bien la situation dans laquelle on se trouve. Nous le savons tous, si nous sommes des chrétiens, même depuis déjà plusieurs années, la chair ne prend pas de vacances. Peut-être nous, nous sommes en vacances présentement, nous aimons profiter de la belle saison estivale, mais la chair, elle, quant à elle, elle cesse jamais de travailler. Elle fait même des heures supplémentaires. Elle commence tôt le matin, elle finit tard le soir. Elle travaille toutes les fins de semaine, même les jours fériés. Elle sera toujours au rendez-vous. Je dis ça en blague, mais c'est loin d'être de tout repos. Nous sommes des pèlerins, c'est vrai, mais des pèlerins au combat. Nous ne sommes pas des pèlerins marchant je ne sais où, étant tout bonasse, faible de caractère, manipulable par toutes sortes de désirs. Mais nous sommes des pèlerins équipés comme des soldats. Nous combattons des désirs charnels. Richard Baxter disait, « Le chrétien doit surveiller son cœur aussi attentivement qu'un soldat garde son poste de nuit. Car son ennemi est toujours proche et un instant d'inattention peut tout perdre. » C'est une exhortation assez solennelle à la vigilance spirituelle constante. Baxter, fidèle à la tradition puritaine, insiste sur la réalité du combat intérieur dans l'âme qui mène du croyant, c'est le combat intérieur que le croyant mène en lui. Comparer le soldat à un chrétien qui garde de nuit, c'est pas anodin. Parce que de nuit, la menace est invisible à nos yeux, ou du moins très difficile à voir. La fatigue pèse et la moindre distraction peut ouvrir la voie à l'ennemi. Mais c'est la même chose pour notre vie spirituelle. Baxter ne dit pas que le chrétien perd son salut s'il chute. La persévérance des saints est assurée par la grâce divine, ça on le sait. Mais il souligne plutôt que les conséquences d'une chute peuvent être graves. Notre cœur est un champ de bataille où se jouent des enjeux éternels. Et la négligence, même brève, peut entraîner une chute douloureuse. Une perte de joie, de paix, perdre une bonne conscience devant Dieu, trouble de l'assurance de notre salut, dureté du cœur, refroidissement de l'amour pour Dieu et les frères, influence néfaste même sur le reste de la communauté croyante. Alors, j'en passe, hein, vous en avez probablement d'autres en tête. Alors, le chrétien qui néglige de garder son cœur risque d'être pris par surprise, comme le gardien de nuit, de céder à des passions anciennes, à se retrouver dominé, même temporairement, parce qu'on avait déjà été libéré par le Seigneur. Et même amener d'autres croyants avec lui dans son débordement. C'est pourquoi cette chair-là doit être mortifiée chaque jour, comme on lit en Romains 8:13, tenue en bride, soumise à la discipline de la parole et de la direction du Saint-Esprit. Pierre ne s'arrête pas non plus à l'exhortation d'un combat intérieur contre les passions, comme si ce combat relevait uniquement de la sphère privée et de celle de notre assemblée. Il nous montre que cette lutte, si secrète et intime soit-elle, elle commence là, dans le secret, s'inscrit dans une vocation qui est encore beaucoup plus vaste. Elle vise un témoignage visible dans le monde. Les répercussions de la sanctification personnelle ne s'arrêtent pas aux frontières de notre âme et de l'assemblée, mais elles rayonnent vers l'extérieur. Notre vie sanctifiée, qui est façonnée par l'Évangile, a pour but de devenir un écho du royaume de Dieu au milieu des hommes, au milieu des incroyants. Il dit « Ayez une bonne conduite parmi les païens, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » La sainteté à laquelle Dieu nous appelle n'est pas une discipline ascétique stérile, hein, ascétique loin en marge de la société, mais une vie féconde qui engendre des fruits. Une vie transformée qui devient un miroir de la gloire de Dieu devant les hommes qui ne le connaissent pas. Notre témoignage chrétien commence généralement par, avec des paroles, si on le sait, hein, on annonce qu'on est chrétien, on annonce l'Évangile. Mais c'est loin de se terminer là. C'est notre marche sainte qui témoigne de notre Sauveur glorifié. La bonne conduite évoquée ici, c'est une vie belle, digne et visible. Le mot grec employé, kalen, ne désigne pas seulement ce qui est moralement bon, mais aussi ce qui est attrayant, admirable, noble. Alors, c'est une sainteté qui est lisible, on peut la lire chez le croyant. C'est une vie évangélique qui interpelle, qui résonne dans la conscience même de ceux qui rejettent l'Évangile et les messagers. Ainsi, ceux qui aujourd'hui nous calomnient ou qui rejettent l'Évangile pourront se souvenir de nos bonnes œuvres et au jour où Dieu les visitera, et tout ça servira à son plan rédempteur, qui est parfait d'une part et de l'autre incompréhensible. Nous ne savons pas comment Dieu va utiliser notre témoignage pour parler à quelqu'un d'autre dans son cœur. Ça reste un mystère, mais on y fait confiance à ce niveau-là. Notre sainte conduite ne parle pas seulement au présent, mais elle est aussi une semence pour l'avenir. Un témoignage qui portera du fruit quand Dieu, selon son temps, se manifestera à cette personne à laquelle on prie et on témoigne. Alors, c'est à cette dimension publique-là, civique et même sociale, que notre foi, Pierre, nous conduit maintenant. Ouais, je vais recommencer cette phrase-là. Alors, oui, c'est dans une, c'est dans une dimension qui est beaucoup en dehors de nous, en dehors même de notre communauté, que Pierre nous appelle à briller, que notre foi brille et qu'elle brille par une soumission et la bonne conduite qui est de mise pour un chrétien. Alors, mon deuxième point, une conduite droite pour museler l'opposition et par motif de conscience envers Dieu. Pierre nous décrit un monde qui est hostile. Nous savons que le monde est l'Évangile par extension, et par extension, et nous également. Oh, désolé, je recommence cette phrase. Alors, si le monde vous hait, je lis le Jean 15, 18 à 19, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, l'Évangile est hostile au monde. Ceux qui appartiennent au Christ sont hostiles et le monde nous hait. Nous sommes haïs pour notre différence avec lui, parce que nous vivons autrement. Nous marchons à contre-courant des normes sociales et culturelles, morales de notre époque. Et on devient même la proie facile dans certains cas. Nous sommes mis de côté, marginaux, pas par notre plein gré, mais parce que parfois c'est ce que le monde veut de nous. La sainte présence d'une personne pieuse, animée par l'amour du Christ et obéissant à sa parole, agit comme un miroir qui révèle, sans même le vouloir, la corruption du cœur humain qui se trouve en face de nous. Et ça, ben, ça dérange. La sainteté authentique est perçue comme une menace, non pas parce qu'elle attaque verbalement, mais parce qu'elle expose silencieusement le cœur des pécheurs. Le chrétien n'a pas besoin d'accuser pour susciter la haine. Sa conduite, lorsqu'elle est fidèle, suffit à faire ressortir l'injustice, l'orgueil ou l'immoralité chez ceux qui l'entourent. Déjà au 1er siècle, les croyants étaient accusés de subversion politique. On les soupçonnait de vouloir renverser l'ordre établi parce qu'ils confessaient un autre seigneur que César. Ils étaient traités de fanatiques, de traîtres à la patrie, de perturbateurs de la paix publique, simplement parce qu'ils refusaient de participer à certains rituels civiques ou qu'ils prêchaient un salut exclusivement en Jésus-Christ. Il y avait une très grande ignorance chez les païens envers les chrétiens. Mais ce n'était pas seulement de l'ignorance, c'était aussi de la méchanceté. Et aujourd'hui encore, une vie chrétienne fidèle bien, dérange. Dire que la vérité existe, que le bien et le mal ne sont pas relatifs, que le corps n'est pas une marchandise, que l'amour a des bornes, que le salut en Christ, que le salut est en Christ seul, ce ne sont pas des idées neutres dans notre société. Ce sont des positions qui choquent, qui offensent, qui provoquent les gens autour de nous qui ne connaissent pas la vérité. C'est exactement dans ce contexte hostile que Pierre nous appelle à faire briller la lumière qui est en nous. Oui, il y a quand même une question d'ignorance, encore aujourd'hui, chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais le mal ne vient pas seulement du manque de connaissance, comme le croyait par exemple Socrate, qui disait que nul n'est méchant volontairement. Mais nous croyons que l'homme non régénéré est foncièrement mauvais, ennemi de Dieu et incapable de faire le bien. Ils ignorent probablement beaucoup de choses sur le christianisme, sur les chrétiens, et sur notre manière même de vivre. Notre texte même aujourd'hui nous le démontre, il les appelle des ignorants. Mais le réel problème est beaucoup plus fondamental que ça. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas été connus par lui. Ils sont complètement étrangers à la vie d'en haut. Ils ont encore un cœur de pierre, un cœur méchant. Et comme le dit le Seigneur dans les Évangiles, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et leur bouche est remplie de calomnies envers nous, le texte dit. Leur bouche dit des mensonges à notre sujet. Dans le verset 15, on trouve un petit bout de phrase qui contient une grande exhortation. Ce bout de phrase, c'est « Vous réduisiez au silence ». Pierre n'emploie pas un verbe doux pour parler de l'effet du témoignage chrétien. Je tiens quand même à faire une distinction entre le témoignage en lui-même, qui est doux. Il est rempli de paroles de vérité, d'amour, de patience, de bonnes actions, hein, etc. Le Seigneur nous appelle à la douceur, mais l'effet du témoignage est tout autre. Lui, il n'est pas doux. Pierre ne dit pas simplement que nos bonnes actions amèneront les autres à réfléchir ou à se taire d'eux-mêmes, comme le ferait le verbe « sigao » qui renvoie à garder le silence volontairement. On peut le lire dans l'Évangile de Luc, après la transfiguration, les apôtres, y est écrit, où les disciples gardèrent le silence. Alors, c'est volontairement eux-mêmes qui ont décidé de garder le silence. Mais l'apôtre ici, l'apôtre Pierre, utilise plutôt le verbe « phimo », qui signifie littéralement « museler »,« bâillonner », comme on ferme la gueule à un animal féroce, par la force. C'est dire à quel point que la sainteté vécue a une puissance percutante. Elle réduit les calomnies au silence comme une vérité qui coupe court toutes les fausses accusations. Le chrétien ne gagne pas par des cris, mais par une vie irréprochable qui étouffe les mensonges par la beauté de son obéissance envers son Dieu. Ce n'est pas en criant plus fort, ni en cherchant à dominer dans l'arène idéologique, mais c'est en menant une vie droite, belle et bienfaisante que les accusations tombent d'elles-mêmes. Les paroles mensongères, les préjugés, les caricatures sur les croyances, sur l'Église deviennent vaines lorsqu'elles sont confrontées à la réalité concrète d'un chrétien qui marche droit devant son Dieu. Et Pierre ajoute immédiatement que cela ne doit pas être fait dans un esprit de rébellion camouflé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Le chrétien est libre, libre de toute condamnation, libre des chaînes du péché, libre de l'opinion des hommes. Mais cette liberté n'est pas un prétexte à l'indépendance arrogante. Elle est orientée vers le service de l'autre. Servir Dieu en servant les autres dans l'humilité, dans l'honneur. Cette liberté-là ne doit jamais dégénérer en duplicité. Le croyant n'est pas un hypocrite, un acteur qui joue un rôle en public et vit une autre manière dans le secret, dans sa demeure. Notre bonne conduite ne doit pas être une façade religieuse pour obtenir l'approbation des hommes, mais c'est l'expression qui est sincère d'un cœur transformé par l'Évangile. Nous n'agissons pas d'une manière devant les hommes et d'une autre quand nous sommes seuls. Parce qu'on sait que Dieu voit toutes choses, qu'il sonde les cœurs et qu'il est le juste juge et qu'il jugera chacune de nos œuvres avec justice. Être serviteur de Dieu, c'est vivre dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'unité de vie, sans doublage, sans double langage ni double vie. La vraie liberté chrétienne, c'est celle qui nous rend capable de vivre d'une manière cohérente sous le regard de Dieu et sous le regard des hommes, dans le secret de notre chambre. Alors, d'où le quadruple commandement qui est donné au verset 17. Honorez tout le monde, peu importe leur rang, leur statut ou leur croyance. Aimez les frères, c'est-à-dire l'Église, la famille de la foi. Ça, ça va de soi, hein? Ça, c'est facile. Craignez Dieu, la base de toute vie droite, la soumission qui est volontaire à notre Seigneur. Honorez le roi, même si ces rois sont païens ou injustes, qui nous font du mal. Il a été placé là par la volonté souveraine de notre Dieu. Alors, en résumé, le Seigneur s'attend de nous que nous répondions au mal, non par la colère ou le mépris, mais par une conduite vertueuse, qui est désintéressée, qui rend visible la gloire de notre Dieu dans un monde souvent hostile à l'Évangile. C'est de cette manière-là que nous muselons la bouche des ignorants, par la force tranquille d'une vie qui est juste et droite. Alors, elle a la force. Elle a, c'est cette vie tranquille, juste et droite. Ni l'agressivité, ni la peur, ni la compromission est une option. Une beauté qui émerge de la douceur, de l'humilité, de la patience, de la vérité vécue dans le concret de chacune de nos relations et dans la noblesse de toutes nos actions. C'est ça qui fait vraiment l'effet dans le cœur des gens. Le Seigneur, comme on l'a dit tantôt, il s'en sert d'une façon mystérieuse. On ne sait pas. La parole, l'esprit, le témoignage chrétien, il blende ça ensemble, puis il s'en sert. Mais on lui fait confiance dans toutes ces choses. Alors, notre vie doit vraiment être un argument vivant, une parole qui est incarnée, la parole de Dieu incarnée, une prédication silencieuse, mais puissante. Il applique maintenant ce principe de témoignage vivant à une sphère bien concrète et particulièrement difficile, celle de la soumission dans les relations sociales qui sont injustes et en particulier celle des serviteurs à l'égard de leur maître ou des esclaves à l'égard de leur maître. Il écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Verset 18. À première vue, ce commandement peut choquer notre sens moderne de la justice, mais il faut comprendre le contexte. Comme vous le savez probablement déjà, à l'époque primitive, de l'Église primitive, il y avait beaucoup d'esclavagistes, hein? Un grand nombre de chrétiens étaient esclaves. Sans entrer ici dans le débat là, moral entourant l'esclavage, c'est vraiment pas mon but aujourd'hui, là. Le texte met en lumière une différence majeure entre ce que l'on attendait des esclaves dans la société païenne et ce que l'Évangile révèle vraiment à leur sujet. Dans le monde gréco-romain, les esclaves n'étaient pas considérés comme des personnes moralement responsables. Les lois, les philosophes, les codes de conduite de l'époque ne s'adressaient qu'aux hommes libres. Les esclaves, eux, étaient perçus comme des outils vivants, des simples instruments au service de la maison, sans volonté propre à eux, ni capacité morale. Mais ici, dans notre texte, Pierre fait quelque chose qui est radicalement différent pour son époque. Il s'adresse directement aux esclaves. Il les reconnaît comme des croyants à part entière, capables de discerner le bien du mal, de souffrir pour la fidélité et de glorifier Dieu dans leurs conditions au niveau moral. Autrement dit, l'Évangile élève leur dignité. Il ne nie pas leur réalité sociale, ça c'est sûr, ils demeurent des esclaves, mais il les appelle à une obéissance consciente, motivée non par la peur de l'homme, mais par une profonde révérence envers Dieu. L'apôtre Pierre leur parle et les traite comme des frères. Il reconnaît en eux des croyants à part entière, capables de prendre position, capables d'obéir à Dieu, même dans l'épreuve. Et ce qu'il leur dit, c'est que leur fidélité, même dans l'injustice, a de la valeur aux yeux de Dieu. Leur soumission n'est pas une faiblesse, mais une force. Une réponse consciente, pleine de crainte respectueuse envers leur Dieu qui les a placés dans cette position-là. Car même si nous ne sommes pas esclaves, nous, au sens antique du terme, plusieurs parmi nous vivent sous une forme d'oppression, quelle qu'elle soit. Certains subissent de l'injustice en milieu de travail, des pressions pour compromettre leurs convictions, du favoritisme, du harcèlement moral ou un manque de reconnaissance persistant dans leur emploi. D'autres vivent des tensions dans leur propre famille parce qu'ils ont choisi de suivre Christ. On les critique, on les rejette, on les accuse d'avoir trahi leur culture ou leurs valeurs d'origine. Il y a aussi ceux qui, dans leur quartier, à l'école ou même sur les réseaux sociaux, sont moqués, isolés, discrédités, simplement parce qu'ils portent le nom de chrétien. Il y en a encore qui souffrent en silence, dans un mariage difficile, dans une injustice juridique ou dans des contextes institutionnels qui ne reconnaissent ni leur foi ni leur intégrité. Mais même là, notre témoignage reste puissant. Car ce n'est pas l'absence de souffrance qui glorifie Dieu, mais la fidélité au milieu de l'épreuve. Quand nous supportons patiemment ce qui est injuste, non pas parce que nous y sommes résignés, mais parce que nous voulons honorer Dieu. Alors, on ne se résigne pas nécessairement à être esclave. Paul va le dire dans une de ses lettres, il va dire « Si tu es capable de t'en délivrer, alors délivre-toi de cette situation-là. » Alors, on n'est pas résigné, mais on veut honorer Dieu. Notre vie devient une lumière, un acte de foi, un reflet du Christ souffrant dans cette épreuve-là. Le croyant agit avec respect envers tous les hommes, même ceux qui sont d'un caractère difficile, verset 19, par conscience envers Dieu. Ce n'est pas de la soumission passive, mais de la fidélité qui est active envers le Seigneur. C'est une obéissance motivée non par la peur des hommes, mais par la révérence pour notre Dieu, encore une fois, qui nous a placés dans cette condition-là. Il ne faut pas oublier que c'est un hasard si les autorités qui ont mis devant nous sont placées là. Ce n'est pas simplement une affaire d'histoire, de politique, mais c'est le Seigneur lui-même qui les place au-dessus de nous. L'apôtre Paul le dit clairement dans Romains 13, « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été institués par Dieu. » Même quand ces autorités-là sont injustes, tordues ou difficiles à supporter, elles n'échappent pas à la souveraineté de notre Seigneur. Et si Dieu les a placées là, ce n'est pas nécessairement pour nous briser, mais pour forger en nous un cœur soumis à lui. Et je le répète encore une fois, notre obéissance dans ce contexte-là devient un acte d'adoration. Un témoignage de confiance dans la sagesse de Dieu, qui dirige toutes choses selon son plan. On adore Dieu dans cette soumission-là. On reconnaît qu'il est souverain dans cette situation-là. Alors, de se soumettre aux autorités, c'est d'adorer le Seigneur. C'est là, justement, que notre foi devient visible. Quand nous acceptons d'obéir, non pas parce que l'autorité serait digne en elle-même, mais parce que Dieu, lui, l'est. Alors, je terminerai avec mon troisième point. Le Christ modèle suprême de souffrance juste et rédemptrice. Alors, après avoir exhorté les croyants à se soumettre même aux autorités les plus injustes, Pierre élève maintenant nos regards vers celui qui est parfaitement, qui s'est parfaitement incarné, qui a parfaitement plutôt incarné cette soumission-là dans la souffrance, notre Seigneur lui-même. C'est la culmination de son exhortation. Vous souffrez injustement? Alors regardez votre Sauveur. C'est à cela, dit-il, que vous avez été appelés. Ce n'est pas un appel qui est accessoire. Ce n'est pas une parenthèse dans la vie chrétienne. C'est la vocation même de l'Église. Marcher dans les traces d'un Messie crucifié. Car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le mot grec utilisé ici pour « exemple », hypogrammon, un terme tiré du monde scolaire. Il désigne les modèles des lettres que l'on traçait pour les enfants afin qu'ils les recopient, qu'ils recopient chacun des traits. En d'autres mots, le Christ n'est pas seulement un principe moral, mais il a un modèle à imiter, ligne par ligne, geste par geste, pas à pas. N'allez pas à la croix, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et quels sont ces pas dans lesquels nous sommes appelés à marcher? Pierre en adresse une peinture assez bouleversante, directement tirée du prophète Ésaïe. Lui qui n'a point commis de péché, l'innocence parfaite, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, la vérité sans défaut, la droiture absolue. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, la maîtrise de soi dans l'humiliation. Maltraité ne faisait point de menace, l'abandon volontaire, le refus de se venger. Mais s'en remettait à celui qui juge justement, la confiance entière dans la justice divine. Frères et sœurs, le modèle de souffrance que nous laisse le Christ n'est pas passif, il est puissant. Car dans ce silence, dans cette obéissance qui est parfois douloureuse, se trouve une force qui est surnaturelle. La force, oui, d'un amour sacrificiel, mais l'Esprit Saint qui vient nous aider dans nos difficultés. Il faut vraiment s'en remettre dans les mains, entre les mains de Dieu et le Seigneur, même dans les pires souffrances, il va nous préserver. J'ai une histoire qui me vient en tête, c'est, je m'en souviens, je travaillais dans un centre sportif et puis... un homme, il venait à moi, puis il faisait toujours des blagues, puis il m'avait méprisé. Non pas parce que j'étais nécessairement un croyant, mais il savait, il me méprisait un peu comme ça. Et je m'en souviens qu'il m'avait juste donné une claque en plein visage. Puis là, tout le monde avait été choqué. Tout le monde avait dit, mais voyons, quand il t'a donné une claque en pleine face, j'avais juste le goût, moi, de me venger. Et puis moi, j'avais pas le goût de me venger. J'avais pas le goût de me venger, puis ça venait même pas en moi. J'étais comme, hey, est-ce que c'est normal? Mais c'est vraiment le Seigneur dans des situations particulières qui vient à notre secours. C'est lui qui nous soutient par son esprit et qui nous donne la force d'être capable de résister même à une honte publique. Alors vraiment, T'sais, oui, on obéit, mais c'est vraiment la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous qui vient vraiment faire le travail. Pierre va continuer, il va donner un exemple à suivre. Il nous rappelle que cette souffrance du Christ a premièrement un effet bien réel et éternel. Alors, toujours dans la souffrance de Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, Christ n'a pas souffert simplement pour nous inspirer, hein, on pourrait dire un évangile de motivation personnelle, mais il a souffert pour nous sauver, premièrement et simplement. Sa croix n'est pas d'abord un modèle, mais une rançon pour nos péchés. Il ne s'est pas contenté de nous montrer comment souffrir avec noblesse, mais il a porté dans son propre corps le poids de nos fautes, de nos rébellions, de nos échecs et de nos lâchetés, de nos péchés. Il les a cloués sur le bois de la croix une fois pour toutes. Et pourtant, une œuvre si grande, si pure, si profondément marquée par l'amour et la justice ne peut que nous bouleverser. Elle ne nous laisse pas inchangés, indifférents. Le salut, parce qu'il est réel, parce qu'il est personnel pour nous, devient même une source profonde de motivation, de transformation intérieure. Alors, c'est pas, je le répète, hein, c'est pas son bon exemple qui nous sauve, mais le fait d'avoir été sauvé par lui nous pousse à vouloir lui ressembler. C'est en second lieu que c'est un modèle pour nos vies. C'est pourquoi désormais nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour la justice, c'est-à-dire pour Dieu lui-même, dans une vie nouvelle, purifiée, orientée vers le bien. Et dans chaque moment d'injustice, de rejet, de souffrance, nous regardons à celui qui a souffert pour nous, non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme un modèle suprême, et nous le disons, « Seigneur, fais-moi marcher dans tes traces. » Alors, Pierre conclut cette section en nous rappelant notre ancienne condition, « Car vous étiez des brebis errantes, perdues, sans direction, livrées à vous-même, esclaves de vos passions, mais maintenant, nous sommes retournés aux bergers, aux gardiens de nos âmes. » C'est une affirmation puissante de la solitude constante que le Christ a vécue. Il nous a rachetés une fois pour toutes, il veille sur nous, il garde nos âmes, il nous guide dans la vallée des souffrances comme un bon berger. Et il marche avec nous comme le sait bien faire le seul vrai berger. Même quand nous sommes dans l'oppression, le rejet, le bon berger est toujours là avec nous. Alors, je conclue. Alors, rappelons-nous aujourd'hui que la sainteté ne se vit pas en vase clos, mais elle irrigue notre témoignage. Et elle prépare le terrain pour que Dieu agisse dans les cœurs, selon son dessein à lui, en son temps. Le chemin que Dieu nous trace ici n'est pas facile, mais il est lumineux. Il est celui dans la sainteté incarnée du témoignage rendu dans ses actes et dans la souffrance portée avec foi. Lui aussi, il a cru en Dieu. Mais nous voulons, dans nos souffrances, rendre la gloire à Dieu dans chacune de nos détresses. Nous sommes appelés aussi à marcher en comme des étrangers sur la terre, mais pas comme errants, on sait où on s'en va. Nous avons un cap, une vocation, une espérance. Nous marchons à la suite de Christ. Et c'est cela qui donne tout notre sens à notre pèlerinage. Le monde peut nous ignorer, nous calomnier, nous mépriser, mais Dieu, lui, voit nos luttes. Il voit nos renoncements, nos persévérances, et il se sert de tout cela pour faire resplendir la lumière de son royaume dans les ténèbres de ce monde. Alors, tenons ferme, ne négocions pas la sainteté, mais marchons par fidélité envers Dieu. Vivons pleinement notre liberté en Christ, absolument, mais non pas comme un prétexte pour relâcher notre garde, mais comme une puissance donnée pour vivre dans l'obéissance, avec joie, c'est important, avec courage, mais surtout avec intégrité. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, par cette parole exposée, je te prie de venir toucher nos cœurs. Comme Paul le disait, quand il prêchait premièrement à lui-même, Seigneur, c'est un message vivant qui percute et qui change les cœurs. Le message est plus grand que le messager. Seigneur, notre Dieu, nous te prions vraiment d'agir par cette parole, de venir renforcer nos mains si nous relâchons, Seigneur, nous savons que ton esprit nous aide et nous guide à marcher droitement devant toi. Seigneur, nous voulons le faire avec joie, non pas avec contrainte, non pas comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire, mais Seigneur, on a envie de le faire parce que tu as tant fait pour nous. Tu t'es livré à la croix, Seigneur, jusqu'à la croix infâme, nue, méprisée des hommes. Et tu nous appelles, pendant le temps que nous sommes en pèlerinage sur terre, à vivre une vie semblable à la tienne, haïe, méprisée à cause de ton nom. Mais Seigneur, nous le faisons avec liberté, librement, avec joie, Seigneur, parce que c'est la meilleure vie qui est digne d'être vécue. Seigneur, c'est une vie avec toi. Nous te rendons toute la gloire, tout l'hommage, Seigneur, pour cette délivrance que tu as faite quand tu nous as sauvés de nos péchés. Tu nous as délivrés, Seigneur, de nos péchés, non pas pour que nous y retournions en secret, mais pour que nous marchions une vie intègre, que ce soit devant les hommes ou seul devant toi. Seigneur notre Dieu, enlève de nous toute mauvaise pensée, tout désir d'avoir un cœur double. Nous voulons avoir un cœur entier pour toi. Seigneur, c'est en ton nom que je te prie, que je te rends grâce pour cette parole qui a été prêchée, cette parole qui fait du bien à nos âmes. Seigneur, continue de prendre ce culte entre tes mains. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen.